Bonjour à toutes et à tous. On dit souvent que les mots façonnent notre réalité. Et c'est particulièrement vrai pour des sujets aussi sensibles que la fin de vie.
Absolument.
Justement, une chronique récente de Thomas Séraphine sur Tocsin s'est penchée sur le langage utilisé autour du projet de loi français.
Oui, c'est une analyse très ciblée.
Alors attention, aujourd'hui on ne va pas débattre du fond, hein, pour ou contre l'aide à mourir, ce n'est pas le sujet.
Non, pas du tout.
On va plutôt décortiquer la critique de Séraphine sur l'usage de certains mots. Il pense que ça peut, aseptiser, voire déshumaniser une question qui est pourtant profondément existentielle.
C'est exactement ça. Son angle est vraiment sémantique. Il note d'abord que des termes comme suicide assisté ou euthanasie, ben ils disparaissent un peu.
Ah oui ? Remplacé par quoi alors ?
Par aide active à mourir. Souvent abrégé en AAM. D'ailleurs, il trouve cet acronyme un poil pervers, ce sont ses mots. Pour lui, c'est déjà une forme d'euphémisme, en fait.
D'accord. Et il y a un mot qui semble vraiment le heurter particulièrement, c'est éligible.
Ah oui, éligible.
Il dit que ce mot est partout dans les médias, mais chose curieuse, il n'est pas dans le texte de loi officiel. Pourquoi ça le dérange autant, ce mot ?
Bah, pour lui, c'est un mot parasite. C'est son expression. Un terme qui vient du jargon administratif ou même commercial et qui s'invite dans le débat.
Et le problème, c'est sa neutralité apparente.
Exactement. Ça donne un air neutre, objectif, mais ça anesthésie toute la charge émotionnelle, toute la dimension éthique de la chose. Ça lisse la réalité en quelque sorte.
L'article-là, qui est dans le projet de loi.
Oui, c'est une distinction subtile, mais importante pour lui. La fin de la vie, avec l'article, ça évoque quelque chose d'unique, de personnel, de presque sacré, on pourrait dire.
Alors que fin de vie tout court.
Eh bien, sans l'article, selon lui, ça bascule dans un registre beaucoup plus administratif. Un peu comme fin de droit ou fin de contrat. On passe de l'événement existentiel à la catégorie de gestion administrative.
Donc pour lui, c'est pas juste une question de style, c'est plus profond. Il y voit une intention derrière.
Ah oui, clairement. Il ne croit pas à la simple faute de frappe ou à la négligence. Il va même jusqu'à évoquer, bon, c'est son interprétation, hein, une suspicion envers certains courants de pensée qui chercheraient à coder le monde, comme il dit, par ces petites manipulations du langage.
Il pousse l'ironie assez loin sur ce mot éligible, d'ailleurs. Il compare l'éligibilité à l'aide à mourir à l'éligibilité à la fibre optique ou à une carte de fidélité.
Oui, c'est une comparaison choc, évidemment.
Qu'est-ce qu'il veut montrer avec ça ?
Il veut souligner ce qu'il perçoit comme une absurdité. Traiter une question aussi grave, de vie ou de mort, avec le même vocabulaire qu'un service client ou une promo.
D'accord.
Et il renforce ça avec un paradoxe politique qu'il trouve piquant. Il dit, voilà, des citoyens pourraient être éligibles à mourir, pendant que des personnalités politiques condamnées dans le passé à l'inéligibilité judiciaire, il cite Emmanuel Lijupé, ben, elles continuent leur carrière.
Ah oui, le parallèle est...
Et le fait qu'Alain Juppé siège au Conseil constitutionnel, qui pourrait avoir à valider cette loi, ça lui semble particulièrement ironique. Il utilise des mots forts, il parle de crapulisme de certains élus, il assume une posture qu'il qualifie lui-même de populiste.
Bon, au-delà de la pique politique, quel est le malaise plus fondamental que ce mot « éligible » révèle, selon lui ?
Le cœur de sa critique, je crois, c'est que ce terme « éligible », il a beau avoir l'air neutre, objectif, en fait, il masque un verdict.
Comment ça, un verdict ?
Mais ça donne l'impression d'un choix, d'une option, comme si on vous disait « bah, bonne nouvelle, vous êtes éligible à… » Mais en réalité, il s'agit de vérifier si on remplit des critères pour pouvoir mourir. Donc, il se demande si le but caché, ce n'est pas de transformer un droit potentiellement tragique en une espèce d'offre compatible. L'individu deviendrait juste un profil conforme à un protocole.
Cette idée de protocole, ça fait penser à une autre critique qu'il formule sur ce qu'il appelle la novlangue médicale, qui effacerait le réel. Il donne des exemples.
Oui, il en cite plusieurs. Par exemple, on ne dit plus mourir, mais partir en fin de vie.
D'accord.
On ne dit plus souffrir atrocement, peut-être, mais bénéficier d'un protocole. L'agonie devient une phase terminale. Et l'acte lui-même, c'est activer un processus de sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Conclusion sur l'effet de ce langage.
Elle est assez cinglante, sa conclusion. Pour lui, ce n'est pas la mort que la médecine adoucit vraiment, c'est plutôt le langage qu'on utilise pour la rendre administrativement supportable. Ce vocabulaire technique, aseptisé, ça permettrait d'évacuer la dimension humaine, la souffrance, l'émotion, le chagrin, quoi.
Donc si on résume l'analyse de Séraphine, il nous alerte sur une sorte de triple dérive du langage. D'abord, l'euphémisme avec des termes comme « aide active à mourir ».
C'est ça.
Ensuite, l'invasion du jargon administratif et technique avec « éligible » et « fin de vie ».
Exactement.
Et finalement, la déshumanisation que tout cela entraînerait, selon lui.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une réflexion, au fond, sur le fait que les mots ne sont jamais neutres. Ils façonnent vraiment notre manière de comprendre et d'aborder les réalités les plus fondamentales.
Et il termine sa chronique avec une pointe d'humour noir, une sorte de question un peu provocatrice pour faire réfléchir.
Ah oui.
Il demande, après l'éligibilité à l'aide à mourir, est-ce qu'il faudra bientôt être éligible pour l'au-delà ? Remplir un dossier, passer un entretien, obtenir un QR code validé ?
Ah oui, quand même.
Une interrogation finale qui nous laisse un peu songeurs sur la place qu'on accorde à la bureaucratie et au langage face aux ultimes étapes de notre existence.